Alors je voudrais vous parler ce matin du renouvellement d'Élie dans la présence de Dieu, avec deux parties distinctes. Première partie, l'épreuve d'Élie. Deuxième partie, la présence de Dieu. Avec ce qui nous a été dit d'ailleurs plusieurs fois, les rendez-vous de Dieu. Et certainement Dieu donne rendez-vous encore ce matin à quelqu'un. Dans cette première partie, eh bien nous allons voir qu'il y a eu une épreuve terrible d'Élie, et nous lisons dans le premier livre des Rois, s'il vous plaît, au chapitre 19, ce qui s'est passé pour ce grand prophète. Un roi, chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort en disant « C'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne de l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, allez, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola pour prophète à ta place. » Ensemble, nous disons Amen. Première partie, l'épreuve d'Élie. Élie était un homme extraordinaire, un homme de Dieu qui avait connu et découvert la puissance de Dieu, guidé par Dieu, rempli par l'Esprit de Dieu. Et pourtant, Élie est passé par un moment de découragement. J'en viens à un premier point important, mes frères et sœurs. Tout homme peut passer par un moment de découragement. Si Élie, cet homme extraordinaire, cet homme rempli de l'Esprit de Dieu, est passé par l'épreuve, par le découragement, par un moment de flottement, et bien cela peut nous arriver à tous. Et nous avons besoin d'authenticité, de vérité et d'humilité devant le Seigneur, en réalisant que sans lui, nous ne sommes rien. Dans l'épreuve d'Élie, nous pouvons voir qu'il y a eu, en tout cas, eh bien, plusieurs difficultés. J'en ai recensé, surtout j'ai fait un choix et je crois que l'Esprit de Dieu veut parler. La première chose, je dirais qu'il y avait deux ennemis. Premier ennemi, un ennemi extérieur. Cet ennemi extérieur, c'est Jézabel, cette femme qui a su que Élie avait accompli le jugement de Dieu sur les faux prophètes Ils les avaient tous égorgés. Certains diront, c'est sanglant, c'est terrible, pourquoi Dieu fait-il ceci, cela, au travers du prophète? On est dans l'Ancien Testament, il y a tout un contexte, mais il y a là quand même l'expression du jugement de Dieu sur tout ce qui est en abomination à l'Éternel et sur ces prophètes de Baal qui étaient dans l'idolâtrie. Et 450 faux prophètes ont été tués. Et Jézabel, remplie de colère, une femme qui respirait la menace, un peu comme Saul de Tarse, le meurtre, mais parce qu'elle était animée par l'esprit malin, a décidé de lui dire, écoute, demain, à la même heure, je te tue. Et je promets de le faire, sinon, je suis même prête à recevoir la malédiction. Et c'est là que, eh bien, nous voyons qu'il y avait un ennemi extérieur. Et Jézabel représente tout simplement l'ennemi de notre âme. Elle représente, eh bien, l'ennemi spirituel qui est Satan. Et Jésus l'a démasqué, dénoncé. Et Jésus lui-même, dans le désert, eh bien, a résisté au diable. Il ne s'est pas laissé avoir. Et mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de nous rappeler toujours, eh bien, que notre combat, il est spirituel. Et nous n'avons pas à nous battre avec des armes charnelles. Ça sert à rien de nous battre avec des paroles, des discussions, tirailler les uns les autres, si le combat il est spirituel. Et il faut aller sur le terrain spirituel, avec des armes spirituelles, la prière, se tenir devant Dieu et mener un combat contre les autorités et les esprits méchants dans les lieux déserts. Jésus nous a enseigné, l'apôtre Paul dit aussi, résistez au diable, ne lui donnez pas accès. Et pour lui résister, il faut lui résister avec une foi ferme, en prenant toutes les armes de Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, rappelons-nous que notre ennemi, c'est le diable. C'est pas l'autre, c'est l'ennemi de notre âme. C'est un combat. Alors ne laissons pas le diable venir essayer de diviser, de séparer, de semer des graines d'amertume, de rancune, de péché dans nos cœurs, veillons. Deuxième ennemi, il n'est pas extérieur, il est intérieur. Et oui, et quelque part, l'ennemi d'Élie, c'est lui-même. Pourquoi ? Bien parce que nous voyons que depuis le début, Élie est un homme extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il remporte de grandes victoires en étant près de Dieu, la présence de Dieu, toujours. Élie, écoutez Dieu, et nous voyons Dieu parle à Élie, Dieu dit à Élie, Dieu envoie Élie, Dieu exauce Élie. Mais là, dans ce passage, nous voyons que Élie fait ses choix. Élie prend sa vie en main, Élie décide de s'enfuir, il part au désert, il laisse son serviteur, Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Il reprend le contrôle sur sa vie. Mes frères et sœurs, nous ne sommes jamais plus en danger que lorsque nous reprenons le contrôle sur nos vies, alors que le contrôle était à Dieu. Quand nous sommes convertis, nous avons dit, Seigneur, je te donne mon cœur, n'est-ce pas ? Mais quand j'étais petit, on entonnait une chansonnette, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Ah, on la connaît tous, formidable. Mais si j'ai donné ma vie au Seigneur et que je la reprends, ça veut dire que je suis en train de lui voler. Soit je lui ai donné et je lui laisse, soit je ne lui ai pas encore donné. Et parfois, on fait la même chose, on reprend les rênes, on essaie de reprendre le contrôle. Notre ennemi, bien souvent, c'est nous-mêmes, notre chair, nature charnelle, qui veut tellement contrôler les choses. Alors, dès qu'on ne contrôle pas, on commence à paniquer, mais laisse le contrôle au Seigneur. Imaginez, vous êtes en voiture, mais vous avez décidé ce jour-là, messieurs, par exemple, de dire à votre épouse, « Je te laisse le volant. » Elle est ravie. Elle prend le volant. Ah, il y en a certains qui ont des sueurs froides.
Ah bon ?
Mais parfois, c'est l'inverse. Hein. Mesdames pourraient avoir des sueurs froides quand c'est messieurs qui conduisent. Alors, imaginez, vous lui avez laissé le volant. Et à un moment donné, parce que vous n'avez plus confiance, vous sautez sur le volant. Qu'est-ce que vous risquez ? L'accident. Et c'est ce qui se passe quand on reprend le volant alors qu'on l'a laissé au Seigneur. Laisse Dieu au contrôle. Fais-lui confiance. Parce que finalement, Élie, il a peur que Jézabel le tue, mais elle ne pouvait rien lui faire, il était dans la main de Dieu. Par contre, lui s'enfuit au désert et il n'est pas loin de mourir. Il est plus en danger quand il veut reprendre le contrôle de sa vie. Deux ennemis, extérieur, intérieur, rappelons-nous. Et puis, il y a aussi deux dangers subtils. Le premier danger que nous voyons et qui est très subtil, alors il y en a plusieurs, mais j'ai fait un choix, bien sûr, on ne peut pas parler de tout. Ce premier danger, vous allez peut-être être étonné, mais c'est la victoire. Ah bon ? Élie surfait sur la vague de la victoire. Il enchaîne les victoires. Élie prie, la pluie tombe. Élie prie, la pluie s'arrête. Élie prie, le feu tombe. Dieu l'exauce. C'est un homme de victoire. Est-ce que vous aimez les victoires ? Amen, moi aussi. Cependant, parfois, nos échecs nous enseignent plus que nos victoires. Sans aimer les échecs, hein ? Mais si nous ne veillons pas, nos victoires peuvent devenir source d'échecs. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous dit de veiller. Marc 14, 38, Jésus a dit à ses disciples, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Et Élie avait eu des victoires, c'est formidable. Mais mon frère, ma sœur aussi, veille. Tu es rempli de Dieu, tu as eu peut-être une réponse, un exaucement. Le travail qui est florissant, une porte qui s'est ouverte, une guérison, gloire à Dieu. Mais attention, parce que parfois, les lendemains de nos victoires, nous baissons les armes. Et c'est là que nous devenons fragiles et vulnérables. Deuxième danger subtil, c'est l'épuisement. Imaginez quand même, Élie a traversé la famine. Élie était dans le désert. Élie a été nourri au torrent, il était seul. Et puis, il est quand même assoiffé. Et Dieu lui dit, va voir une veuve à Sarepta, je lui ai ordonné de te nourrir. Il y va, on voit qu'il demande de l'eau, il a soif, elle le nourrit. Puis Élie va courir devant Akab avant que la pluie revienne. Alors c'est vrai que nous, on le lit en 3 secondes. Mais quand même, il était au Carmel, il est allé jusqu'à Jizréel. Alors, ça veut dire qu'il y a entre 30 et 50 kilomètres. Alors, ça vous parle en distance? Il y a une distance olympique qui existe. Entre 30 et 50. Le marathon. Or, Élie part après le char et il arrive avant. Si mes calculs sont bons, il a couru à 80 km/h pendant 42 km un marathon. Alors, quand vous avez fait ça et que vous avez en plus affronté 450 hommes ténébreux, rempli de la puissance des ténèbres pendant des heures et des heures, vous êtes épuisé. Et certains me diront, oui, mais attendez, c'est Dieu qui lui avait demandé, qu'il avait béni. Je suis d'accord. D'ailleurs, si Élie a fait cela, c'est parce qu'il y a eu un miracle. Hein. Nous y croyons. Amen. Nous croyons au miracle ici. Alléluia, on est pareil. Merci Seigneur. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. C'est clair. Alors, je suis désolé, je remets en question le record du monde du marathon. Pour moi, c'est Élie. Et la Bible nous dit, parce que la main de l'Éternel était sur lui. Quand la main de Dieu est sur nous, nous pouvons faire des exploits. Mais il faut que la main de Dieu soit sur nous et qu'on reste au creux du rocher, dans sa présence. Seulement, pourquoi il est vraiment épuisé jusqu'à perdre courage, être découragé? Eh bien, c'est parce qu'il a rajouté quelque chose que Dieu lui a pas demandé. Parce qu'après tout cet épuisement, son ressourcement aurait été dans la présence de Dieu. Or, Élie rajoute une demi-journée de marche dans le désert que Dieu ne lui a pas demandé. Moi, je crois qu'il y a aussi une notion d'épuisement là. Mes frères et sœurs, soyons sages. Nous ne sommes pas des surhumains. Vous êtes d'accord avec moi? Soyons sages. Et nous devons avoir un équilibre. Et parfois, on tire tellement sur la corde. Oui, Élie, tu es fort. Oui, Élie, tu es persévérant. Oui, Élie, tu es courageux. Mais Élie, tu as besoin de Dieu. Et pour nous, c'est pareil. On a besoin de se ressourcer, se renouveler et de veiller à ne pas tomber dans l'épuisement, ne pas faire l'activité, la chose de trop que Dieu ne nous a pas demandé. Deux ennemis, deux dangers, mais aussi deux difficultés qui sont liées au sentiment intérieur. On pourrait parler de deux sentiments intérieurs parce que suite à cela, Élie a peur. Élie a peur? Oui, il a peur que Jézabel le tue. La peur. Mais, mes frères et sœurs, Élie n'a jamais eu peur. C'est nouveau, ça. Il a été confronté à 850 faux prophètes, puisqu'il y avait 450 de Baal, puis 400 d'Astarté. Mes calculs sont bons? Ça fait 850. Plus tout un peuple, à un moment donné, qui avait abandonné Dieu. Quand même, Élie n'a jamais eu peur face à ce peuple, jamais eu peur face à ces centaines de faux prophètes, jamais eu peur face à cette même Jézabel, ça faisait un moment, hein, eh bien qu'elle le poursuivait, même Akab. Jamais eu peur. Pourquoi là? Il a peur, tout à coup. J'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Qu'elle te tue? J'ai peur de mourir. Tiens, c'est bizarre. Il a peur de mourir et il demande la mort. Vous savez, quand on s'éloigne de la présence de Dieu, on ne sait plus où on en est. Peut-être quelqu'un s'est dit il y a quelque temps, je ne sais pas, ou dernièrement, je ne sais plus où j'en suis. Seigneur, viens à mon secours, je ne sais plus où j'en suis, personnellement, familialement, dans mon couple, dans ma famille, spirituellement, je ne sais plus où j'en suis dans mon service. Et Dieu te dit, rapproche-toi de ma présence. Je vais te redonner la direction, je vais te redonner la paix, le calme. Jésus avait dit, je suis le prince de la paix, il redonne sa paix. Même dans une maison fermée à quadruple tour parce qu'ils avaient peur, les disciples, il nous a dit que Jésus traverse le mur. Il vient et il leur dit, la paix soit sur vous. On peut recevoir sa paix, mais c'est dans sa présence. Et si tu as peur, le Seigneur est là pour te réconforter. Et te rappeler que c'est auprès de lui que tu as la source du vrai repos. Il a peur, mais aussi il n'a plus envie de vivre. C'en est assez, j'ai envie de mourir. Je ne connais pas vos vies, mais il y a peut-être quelqu'un ce matin qui fait partie de ces gens qui ont dit, prends-moi Seigneur, j'en peux plus. Mon épreuve, ce que je vis, mon couple, ma famille, j'en ai assez. Prends-moi, je veux mourir. Mais Dieu te dit, je veux que tu vives. Amen. Mais Dieu ne te dit pas juste cette parole comme ça, il va te renouveler. Dans sa présence, il veut que tu vives. Deux réactions d'Élie, maintenant. Suite à ses sentiments, il a deux réactions. Premièrement, que fait-il? Alors, il y a une parole, parfois on y passe vite, mais il nous est dit, alors pour lui, il va dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son serviteur. Alors c'est étonnant, il se sent seul et le seul qui est avec lui, il le laisse aussi. Vous voyez, comme on est chamboulé parfois dans nos pensées, en fait, ça veut dire qu'il s'isole. Il s'isole. Mes frères et sœurs, ne nous isolons pas. On est tous différents, mais on a besoin les uns des autres. Et tu as besoin de l'Église. C'est notre force. C'est un corps. Et dans le corps, il y a plusieurs membres, ils sont tous différents. Heureusement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, parce qu'un corps avec trois jambes, ça serait bizarre. Un corps avec une oreille au lieu de deux, il en manquerait. Il faut que le corps soit bien équilibré. Et on a besoin de l'Église, on a besoin de la présence de Dieu. Et nous devons veiller à l'isolement. On a la chance dans l'Église d'avoir un frère qui est ancien berger. C'est un frère âgé, mais il a été berger. J'aime parler avec lui. Il m'avait dit, une fois alors que nous discutions, dans une discussion très intéressante où il me parlait du travail de berger, de son métier d'autrefois, de comment il se prenait. Il s'y prenait, il m'avait dit, tu sais Nathanaël, on pense souvent que les brebis les plus en danger sont les plus petites, les plus chétives. Et il me disait, c'est vrai, sauf dans un cas, le loup ou les bêtes sauvages attaqueront toujours les brebis qui s'isolent. Si la petite est fragile, mais qu'elle reste dans le troupeau, elle ne risque rien. Mais la brebis, aussi grosse soit-elle, si elle s'isole, elle est en danger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et il nous a appelé ses brebis. Les brebis ne se défendent pas avec leurs crocs, elles n'en ont pas. Mais leur sécurité, c'est la présence du berger. Amen. Restons dans la présence du berger. Élie, lui, s'est isolé. Et c'est là qu'il est en danger. Puis la deuxième réaction qu'il a, c'est, écoutez bien, « Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères !» Ça vous parle ?« Je ne suis pas meilleur que lui, je ne suis pas meilleur qu'elle !»« Moi, je ne vaux rien, je ne suis pas assez bien !»« Personne ne m'aime !» Et Dieu dit, « Si, je t'aime, regarde, j'ai donné mon Fils unique à la croix pour toi. Dieu te dit qu'il a donné, eh bien, Jésus-Christ, c'est que tu as de la valeur à ses yeux. » Et si tu dis, oui, mais Seigneur, je ne suis pas un héros, Dieu dira, ah ben oui, ça c'est sûr, tu n'es pas un héros. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas un héros, mais je te rassure, moi non plus. Et même ici, il n'y a pas de héros sur la terre, parce que le seul héros, c'est Jésus-Christ. Donc tu n'es pas un héros, mais tu n'es pas un zéro. Nous n'avons pas à nous enorgueillir, mais nous n'avons pas à nous mépriser. Alors cessons de nous comparer. Et le piège dans sa réaction, c'est qu'il se compare. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et oui, d'accord, mais tu n'es pas meilleur, mais tu n'es pas pire, tu es juste différent. Mon frère, ma sœur, tu n'es ni meilleur ni pire que tes frères et sœurs, que ceux qui t'entourent. Tu es juste différent. Nous avons un vécu différent, une culture différente, un passé différent, des vécus différents, des expériences différentes, parce que nous sommes juste différents et que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu'il agit avec ce que nous sommes. Le piège de la comparaison qui est lié avec cela, eh bien finalement, arrive à un point de découragement et il y a deux conséquences que nous y voyons dans cette première partie de l'épreuve d'Élie. Première conséquence, c'est que Élie a perdu toute sa force. On a l'impression que c'est plus le même homme hein, par rapport à avant. Que s'est-il passé? Bien, finalement, on se rend compte que son âme est sensible. Est-ce que votre âme est sensible? Oui, notre âme est sensible. Mais quand elle n'a plus le filtre, le bouclier, la protection de la présence de Dieu, elle est ultra hypersensible. Et l'accusateur qui vient, Apocalypse 12, il nous est dit que le diable vient accuser les frères. Avec ses mots, M-O-T-S, te procure des mots M-A-U-X. Parce que ton âme n'est plus protégée. Élie, tu étais un homme tellement extraordinaire quand tu étais près de Dieu. Tu redeviens tellement ordinaire lorsque tu t'éloignes de Dieu. Et on pourrait mettre notre prénom, c'est la même chose. Notre force, elle est dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, dans le creux du rocher. Alors, eh bien, on voit que le Seigneur lui a son plan et son projet pour le renouveler. Voyons-le ensemble, parce qu'ici, il y a eu l'épreuve d'Élie, il y a le rendez-vous de Dieu. On a entendu parler de rendez-vous aussi ce matin. Et le rendez-vous de Dieu, c'est d'abord là où Élie se trouve. Élie est là, il s'assoit, il est découragé, il demande la mort et il s'endort sous un genêt. Et comment est-ce que le Seigneur va agir? C'est formidable de voir comment le Seigneur va agir. Parce qu'il nous est dit que, premièrement, il va le réveiller. Mais en douceur. Est-ce que vous aimez les réveils en fanfare? Moi non, hein. On a le cœur qui bat, on se sent mal. Un réveil en fanfare, ça on n'aime pas trop. Mais il vient le réveiller en douceur. Ça fait du bien, un réveil en douceur. Et comment il fait? Il le touche. Dieu est celui qui te touche. Dieu sait comment nous toucher. Dans Matthieu 8, il nous est dit que Jésus était celui qui touchait. Il y avait des lépreux qui étaient là. Il y avait un lépreux qui était là. Et vous savez que les lépreux, à l'époque, hein, ils sonnaient la clochette parce qu'il fallait pas les toucher. Ils étaient contagieux. Et ils viennent. Ils disent, Seigneur, je veux être pur, s'il te plaît. Ils s'attendaient juste à une bénédiction. Mais Jésus fait plus. Il s'approche. Il le touche. Sois pur. Et cet homme est pur. Cet homme est guéri. Jésus a vu les aveugles. Il demandait juste à recouvrir la vue. Mais Jésus est allé, Matthieu 9, il les a touchés. Alléluia! La belle-mère de Simon, qui était malade, une grosse fièvre, Jésus se penche sur elle. Il la touche et elle revient à la vie. Elle n'était pas morte, mais elle était vraiment mal. Dieu est grand et Dieu est celui qui veut te toucher encore. Il veut encore toucher nos cœurs. Il nous réveille en douceur. Il le touche et il lui parle. Lui parle. Vous savez, Élie n'avait plus envie d'avancer, il n'avait plus envie de marcher, mais il n'avait plus envie de parler. Ça vous arrive de ne plus avoir envie de parler? Quand on n'est pas bien, parfois déprimé, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai pas envie de parler. Mais quand tu n'as plus envie de parler, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu veut te parler. Et parfois, il faut juste ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. Laissez l'Esprit de Dieu nous montrer la nature. Laissez l'Esprit de Dieu nous parler. Et Dieu sait comment parler à nos cœurs. Parce que Dieu parle comme un père. Moi, je vois le père rempli d'amour qui vient voir son enfant. Vous savez ce qu'il fait? Il fait ce qu'un parent fait avec un enfant quand l'enfant est fatigué, l'enfant a faim, l'enfant n'est pas bien. C'est simple, c'est concret, c'est pratique. Viens là, assieds-toi. Mange. Tu vas manger un peu. Puis d'ailleurs, il mange, il se rendort. Puis le réveil, finis ton assiette, reprends. Ça vous parle? Aux parents? Il prend soin de lui. Et mes frères et sœurs, ce que Dieu fait avec Élie, je trouve c'est extraordinaire. Je ne sais pas si, mesdames, vous avez déjà rêvé d'un repas au lit, avec un café chaud, je ne sais pas. Mais quand même, Élie s'endort dans un désert où il avait envie de mourir. Il se réveille. Avec à son chevet, dit la parole de Dieu, C'est plus le même décor. Premièrement, un maître d'hôtel, et c'est un ange. C'est pas mal, hein? Deuxièmement, un repas tout préparé, bien chaud. Un gâteau cuit préparé par Dieu lui-même. Parce qu'entre nous, j'ai jamais trouvé une recette de gâteau, ni moi, ni le meilleur cuisinier qui existe, qui vous permette de marcher 40 jours et 40 nuits. Hein. C'est le Seigneur qui avait préparé ce repas. Donc, restaurant gratuit, hôtel gratuit, avec un ange qui lui a préparé. Et en plus de tout cela, le Seigneur qui lui dit « repose-toi ». Parce qu'on se dit, ben, il se recouche, on dit, mais quand même, Élie, le Seigneur est là, t'as un ange, on te donne un repas, et tu te recouches, tu te rendors. Oui, mais pour moi, c'était pas le même sommeil. Ça vous est déjà arrivé de dormir longtemps, mais de vous réveiller fatigué? Ça vous est déjà arrivé de dormir, mais sans dormir? Il n'y a pas de récupération, parfois il y a trop de soucis, c'est comme une machine à laver, là, ça tourne. Pourtant, ce que Dieu nous donne, c'est pas juste de dormir, mais c'est de nous reposer. C'est pas pareil. Et la deuxième fois, Élie s'endort le ventre plein et l'esprit calme. Ça, c'est un vrai repos. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu nous conduit dans le repos spirituel. Il y a un doux équilibre entre le combat spirituel et le repos. Ce repos qui fait que tu es dans la paix, tu retrouves le calme. Comme quand Jésus a dit à la tempête, « Silence, tais-toi !» Et un grand calme se fit. Voilà, ça c'est la voix du Seigneur, la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Et c'est ainsi que Élie va être renouvelé, va être fortifié. Et il se réveille et quand même, l'ange lui dit, « Allez, mange une seconde fois, marche, et car le chemin est trop long pour toi. » Mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, si on ne goûte pas à la présence de Dieu, si eh bien on ne cherche pas à être sans cesse renouvelé, le chemin sera trop long pour nous. On ne peut pas croire qu'on ira au ciel comme ça en claquant des doigts, qu'on pourra mener un combat contre le diable et tout ce qui se fait aujourd'hui en dormant, en se reposant sur nos forces. On a tous besoin du Seigneur. Amen. Sinon, le chemin est trop long pour nous. Alors, voyez, nous avons besoin d'être renouvelés. Mais ce qui est particulier dans le fait d'être renouvelés, et nous voyons Élie, c'est qu'en fait, nous avons besoin constamment d'être renouvelés, n'est-ce pas? On parlait des victoires, mais quand on a une victoire, c'est formidable, mais parfois ça dure 2-3 jours, 2-3 semaines, et puis on a besoin à nouveau d'être renouvelé, n'est-ce pas? Alors si je peux me permettre quelques secondes, tournez-vous vers votre voisin, dites-lui, tu as besoin d'être renouvelé. puis, tu as besoin d'être renouvelé. Ça y est? Et attendez, soyons humbles. Tournez-vous à nouveau vers votre voisin et dites-lui, j'ai besoin moi aussi d'être renouvelé. Alléluia, on a tous besoin d'être renouvelés. Et ce qui nous renouvelle, c'est la présence de Dieu. Alors il y avait ce premier rendez-vous de Dieu. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, alors on va au deuxième rendez-vous? Oui, parce que Dieu lui dit, marche, 40 jours, marche, et il marche avec ce repas sensationnel, 40 jours et 40 nuits. 400 kilomètres de marche, sans avoir besoin d'une aide humaine. C'est miraculeux. C'est ce qui se passe pour un chrétien qui va jusqu'au bout, jusqu'à l'enlèvement. Amen. Moi, j'attends cet enlèvement. Ça va être merveilleux. J'ai beaucoup de choses à demander au Seigneur. Et aussi à Élie, à Moïse. Ça va être super. Préparez-vous. Et donc, il marche, deuxième rendez-vous, ce n'est pas n'importe où. Il va à la montagne de Dieu. Là où Dieu nous attend, rendez-vous, c'est à la montagne de Dieu. Mais pour aller à la montagne, il faut, je vous ai donné la réponse, il faut monter. La montagne, ça ne se fait pas comme ça aussi facilement. Il faut monter. Pour prier, il faut chercher la face de Dieu. Alors il y va. Et c'est quand même étonnant de voir que finalement, tout n'est pas résolu. Il y arrive. Et Dieu lui dit, que fais-tu? Élie se met à dire, je suis seul, ils m'ont tous abandonné, ils sont tous comme ci, ils sont tous comme ça. Les plaintes, c'est étonnant, Dieu le laisse parler. Ah, quelle pédagogie de Dieu. Ben, Élie ne parlait plus, il n'y avait plus rien. Il était sous respiration artificielle. Il ne voulait plus marcher, il ne voulait plus manger, il ne voulait plus parler. Donc, comme il se met à parler, bon, ben, vas-y, parle. Déjà, c'est bien. La pédagogie de Dieu, c'est aussi que nous nous mettions à lui parler. Écoutez bien cela, mes frères et sœurs. Même quand c'est quelque chose qui est lié à une blessure, encore plus même. Élie, on a l'impression qu'il répand une amertume, une incompréhension, une frustration, une colère. Ils t'ont tous abandonné, ils t'ont tous renié. Moi, je suis seul. Mais vous savez, il est en train de guérir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il répand son amertume devant Dieu. Or, je me rappelle que Anne, rappelez-vous cette femme qui était mortifiée, insultée par sa rivale Pénina, elle était malheureuse, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et l'autre lui disait, moi j'en ai beaucoup, et tu n'es que ci, et tu n'es que ça, et toi tu sers ton Dieu. Elle était malheureuse. Et il nous est dit, entrant dans la présence de Dieu, elle répandit son amertume devant Dieu. 1 Samuel 1,9, elle versa des larmes. Et qu'est-ce qui se passe? Le miracle. Guérison du cœur et du corps. Elle qui était stérile va donner naissance à Samuel, le premier des grands prophètes de l'Éternel. Amen. Mais il a fallu d'abord répandre. Parce que si l'amertume elle reste là, vous savez, ça ne sert à rien de jouer un masque, de faire comme si tout va bien, et de croire que c'est spirituel, parce que cette amertume nous ronge de l'intérieur jusqu'à tout pourrir et nous détruire. Il faut qu'elle sorte. Mais le problème, c'est que nous, parfois, on oublie l'essentiel. Parce que l'amertume dans l'âme, elle répandit cela devant l'Éternel. Élie s'est tenu devant Dieu. Et nous, parfois, l'amertume, on la répand, mais devant les autres. C'est pas pareil. Parce qu'en fait, quand ça va pas bien, il faut dire au Seigneur, en cœur à cœur, Seigneur, je vais pas bien. Seigneur, aide-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, change-moi. Aide-moi. J'ai besoin de toi. C'est être vrai, authentique. Ne jouons pas tous les super-héros. On passe tous par des moments difficiles. Mais ce que Dieu aime, c'est le cœur à cœur. L'authenticité, la vérité. Et répandre cela devant le Seigneur et lui dire, c'est dur. Voilà ce que je ressens. Voilà ma frustration. Voilà ma colère. Voilà ce que j'ai pas compris. Mais je viens devant toi. C'est devant le Seigneur. Et là, il y a une guérison extraordinaire qui se fait. Amen. Mais c'est pas devant les autres, mes frères et sœurs. Là, c'est l'inverse. On répand un poison qui fait plus de mal que de bien. Tenez, je vous donne un témoignage. C'est il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, mon épouse Marilyn était en formation professionnelle. Et dans cette formation professionnelle, elle s'est retrouvée à un moment donné à table, en plein milieu de la formation, ça faisait quelques jours, avec une dame. Étrangement, tout le monde s'était mis ensemble et cette dame était seule. Marilyn a accepté, elle s'est mise en face. Et en fait, cette dame parlait. Vous savez, parfois, on parle aux uns, on parle aux autres, on parle, et on n'écoute pas. Pourtant, dans le livre de Jacques, cet apôtre du Seigneur nous dit d'être lent à parler et prompt à écouter. En Afrique, on dit qu'on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et cette femme, elle parlait. Alors Marilyn, vous savez, mon épouse, elle est discrète, elle écoutait. Et elle a compris pourquoi personne ne voulait se mettre en face. Et dans la discussion, cette femme qui parlait, Marilyn n'arrivait pas à en placer une, elle a dit, mais c'est pas grave, elle a besoin de parler, je vais l'écouter. Et alors elle parlait, et elle commence à dire, tu sais, moi je suis de telle religion, chrétienne, mais elle n'est pas évangélique. Elle dit, mais alors c'est comme ces gens, les évangéliques, alors c'est n'importe quoi. Alors Marilyn essaie de... Et puis elle n'arrive pas à trouver une place. Donc elle continue, oh, vraiment c'est n'importe quoi. Jusqu'à ce que Marilyn arrive à lui dire, tu sais, je suis chrétienne évangélique. Oh, excuse-moi, mais en fait c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais... ce que je voulais dire, c'est, tu sais, surtout c'est pasteur évangélique. Alors mon épouse essaie de placer une, mais elle continue. Jusqu'à ce qu'elle arrive à dire, tu sais, mon mari est pasteur. Elle s'est décomposée, vous savez ce qu'elle a fait? Eh bien, encore les paroles, elle a continué. Elle lui a dit, non, mais en fait, je ne voulais pas vraiment dire les pasteurs évangéliques, je voulais dire surtout les pasteurs africains évangéliques. Alors Marilyn lui a dit, tu sais, mon mari est franco-africain. Oh, décomposé. Ah, ça suffit, elle n'a rien dit d'autre, hein, vous voyez? Oh là là. Alors c'est vrai, ça nous fait sourire, c'est tellement incroyable cette expérience, mais parfois ça fait du mal aussi, hein, les paroles. Alors, dans son amour, Dieu laisse parler Élie. C'est sa pédagogie. Vous savez, moi, ça m'arrive, et il n'y a pas si longtemps, ça arrive de temps en temps, mon fils, alors je l'avais un petit peu repris, grondé par rapport à quelque chose, recadré, mais il n'arrivait pas à être consolé. Et des sanglots, etc. Alors, je lui ai dit, viens, viens, on va. Et là, il avait besoin de parler, d'exprimer ce qu'il ressentait comme injustice, etc. Bon, eh bien, il a parlé. Au fur et à mesure qu'il parlait, avec sanglots, vous savez, quand les enfants, ils n'arrivent même pas à en placer une, eh bien, il a fini par... se calmer. Ça y est. Je l'ai dit. Déjà, ça me fait du bien. Il s'est senti écouté. Entendu. Et puis après, je lui ai dit, bon, j'ai entendu. J'ai écouté. J'ai compris. Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Et c'est ce que Dieu fait avec Élie. Tu as parlé. Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Alors parle, Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Pas de mots. Pas de mots. Oui, oui, tu vas écouter. Mais écouter quoi? Tu ne parles pas, Seigneur? Ça vous est déjà arrivé de dire, Seigneur, parle-moi? Rien. Silence radio. Seigneur, j'ai besoin d'une parole? Rien. J'ai besoin d'une prophétie? J'ai besoin de que quelqu'un qui ne connaisse pas ma situation vienne me dire ce que je dois faire? Puis rien. Seigneur, parle-moi. Puis Dieu parle différemment. Parce que Dieu veut nous conduire à une maturité spirituelle. Et pour nous conduire à une maturité spirituelle, il veut que nous le connaissions mieux dans sa présence. Que nous le connaissions davantage, que nous découvrions des choses que nous ne connaissons pas de lui. Alors, il y a eu un vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu un feu, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Mais Élie, depuis le début, connaissait le Dieu puissant, El Shaddai. Il connaissait le Dieu au-dessus de tout, El Tsebot, l'éternel des armées. Quand il parle à Dieu, il dit, toi tu es l'éternel des armées, El Tsebot. Tu es El Abir, le Dieu fort. Tu es El Shaddai, le Dieu puissant. Ça, il connaissait. Tu es El Jireh, celui qui pourvoit. Mais Élie, tu as besoin d'apprendre à connaître aussi El Roi, l'éternel ton berger. Tu as besoin d'apprendre à connaître El Makom, le Dieu qui est là, L-A, dans ce murmure doux et léger. On a besoin d'apprendre à connaître Dieu quand on ne le connaît pas. Et dans ce murmure doux et léger, il y avait la présence de Dieu qui n'était pas dans le bruit. Il me semble que Dieu a parlé ce matin. Alors Élie sort, s'enveloppe le visage. Et il réalise que Dieu parle aussi dans le silence. Dieu parle dans les deux. Et pourquoi Dieu lui a parlé? Parce que cette fois, il n'était plus isolé, il était revenu dans la présence de Dieu, sur la montagne de l'Éternel. Or, depuis le début de son ministère, la force d'Élie eût été d'être, finalement, dans un mot de deux lettres. La, L-A. Dieu lui avait dit, je vais te nourrir par les corbeaux, ce qui est un miracle, parce qu'un corbeau qui nourrit un être humain, normalement, ça ne partage pas sa nourriture, même pas avec sa famille, un corbeau. C'est contre nature. Et il leur a amené la viande. Et Dieu lui avait dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, elle a. Et parce qu'il était là, il avait été nourri de Dieu. Tu te tiendras là, elle a, sur la montagne, et je te bénirai. Mais quand Élie a repris sa vie en main, il n'était plus là, elle a, où Dieu voulait. Alors là, sur la montagne, il retrouve sa force parce qu'il revient dans la présence de Dieu. Il reprend des forces, Dieu lui parle dans le silence. Il est prêt à repartir, extraordinaire. Sauf que, mais on a l'impression que ça recommence, rebelote. Vous avez vu Élie? Oui, je suis resté là. Quand Dieu lui repose la question, je suis seul. Et ça me fait penser à nous. Parfois, on a été touché par Dieu, on a été béni, même on sort d'un culte et on entend des choses étonnantes. Et vous savez, la pédagogie de Dieu, je l'ai dit, c'est d'être doux, bienveillant, comme il a nourri Élie dans sa présence, mais c'est parfois aussi d'être ferme. Dieu est équilibre, parfait. Et là, il dit à Élie, allez maintenant, tu vas arrêter. Hein. Tu te lèves et tu déchires la page. Tu y vas. Vous savez, c'est comme avec les enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, ça m'arrive, moi, personnellement, dire à mon enfant, allez, ça va pas, parle, exprime-toi. Et on fait un câlin, waouh, ça leur fait du bien, c'est incroyable. Et puis, il y a des moments aussi, ce qui leur fait du bien, c'est de les recadrer. Et de dire, allez, maintenant, tu te lèves, tu vas y aller, on va y arriver, tu persévères. Et oui, et c'est pas de les rendre faibles, c'est de les préparer à la difficulté de la vie. sans être dur, mais avec un équilibre. Et là, eh bien, Dieu dit à Élie, allez maintenant, stop, tu te lèves et tu vas oindre, eh bien, Azaël, tu vas oindre aussi Élisée à ta place. Jéhu et Élisée, à ta place. En fait, Dieu est en train de lui dire, écoute, tu voulais mourir, tu croyais que tu étais seul, mais moi, je te demande pas de mourir, je te demande de continuer. J'ai quelque chose pour toi. Et tu vas aller transmettre. Il lui dit pas, allez, tu es à la porte. Maintenant, c'est Élisée qui prend la place. Et on voit toute la suite du récit et du livre. En fait, il transmet. Mes frères et sœurs, l'Église, toi, moi, les chrétiens, nous sommes appelés à transmettre. Mais pour transmettre, il faut aussi arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur nos vies. Marc 8, 36, rappelez-vous, Jésus avait dit, celui qui voudra conserver sa vie, il va la perdre. Hein. Mais celui qui la perd à cause de moi, il la gagne. Et nous avons besoin de laisser le contrôle au Seigneur. Parce que si nous nous isolons, si nous nous éloignons de sa présence, nous devenons vulnérables. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre, il s'était éloigné. Et il nous est dit, lorsque Pierre se tint loin, hein, Pierre suivant Jésus de loin, et c'est là que cet homme qui avait dit, tous te renieront, pas moi. Et tout à coup, lui qui était si fort près du Seigneur, devient si faible loin du Seigneur. Une femme qui vient lui dire, mais c'est toi le Galiléen? Non, non, c'est pas moi. Une autre, c'est toi? Non, non, c'est pas moi. Et puis des gens qui, mais tu as l'accent galiléen. Vous connaissez les accents, hein, on les reconnaît. L'accent du Nord, l'accent de Marseille, l'accent, tu as l'accent. Et il a renié avec des injures même, des jurons, parce qu'il s'était tenu loin. Alors le Seigneur nous invite à revenir dans sa présence, c'est là qu'il y a notre force. Et que nous sommes renouvelés, mes frères et sœurs. Oui, le Seigneur est prêt. Et il veut que nous soyons renouvelés dans sa présence pour transmettre. Parents, transmettez à vos enfants, transmettons aux jeunes, transmettons ce que nous avons reçu. Et soyons de ceux qui brillent de la lumière de Christ. Amen. Je voudrais prier avec vous. Le Seigneur est là. Gloire à Dieu. Il nous conduit. Merci Seigneur, parce que si nous pouvons tous passer par des moments difficiles, tu es là pour nous renouveler. Mais c'est dans ta présence que nous pouvons être renouvelés. C'est là que nous pouvons être encouragés et fortifié. Parfois, comme Élie, nous nous sentons seuls et nous disons « je suis seul », nous pensons « je suis seul », mais en réalité, c'est parce que nous nous sentons seuls. Et tu veux nous aider à réaliser que tu es là, que tu ne nous abandonnes pas et que tu nous attends là dans ta présence. C'est là que nous sommes nourris. C'est là que nous sommes touchés, c'est là que nous sommes encouragés, et c'est là que nous avons la force pour marcher, repartir, et pour transmettre le flambeau, pour communiquer la vie afin que de nombreuses âmes soient sauvées. Je te prie de bénir, d'encourager, de renouveler mes frères et sœurs, cette Église et tous ses bien-aimés, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.